Vous disiez il ne faut plus séparer, il faut intégrer, mais votre raisonnement ne peut pas être symétrique. La séparation dont vous parlez, c'est une séparation de l'ordre qui concerne le pouvoir politique, alors que les solutions que vous offrez à l'intégration, ce sont des solutions d'ordre social. Donc votre leitmotiv qui consiste à dire il ne faut plus séparer aujourd'hui, la problématique c'est d'intégrer, la séparation d'une part et l'intégration d'autre part ne sont pas du tout sur les mêmes plans. Donc le leitmotiv ne tient pas à mon sens. Et en termes de bibliographie, il y a un indice intéressant à propos de la guerre des Frances. La guerre des deux Frances que vous évoquiez. Il y a 2 mois, il y a eu un article dans Le Monde qui rappelait que les lefévristes occupent l'église Saint-Nicolas du Chardonnay illégalement depuis 1977 et que la ville de Paris n'a jamais courageusement entrepris les dispositions nécessaires pour récupérer l'espace. Et l'un des motifs évoqués dans l'article, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être que ça serait intéressant de voir ça dans votre profession, c'est qu'on aurait évoqué la cause d'une peur à la ville de Paris de ne pas justement réveiller à nouveau une espèce de guerre des religions, ou plutôt d'une guerre civile, voilà. Donc du point de vue du fait social, ça serait intéressant de creuser les raisons pour lesquelles la ville de Paris n'a toujours pas récupéré ses locaux.
Écoutez, il y a 2 dimensions dans votre intervention, une assez générale et une qui pose sur un problème précis. Alors, sur le problème précis, tout d'abord, je m'étais posé la question, figurez-vous. Je m'étais posé la question, je l'avais posée à je ne sais plus à qui, mais enfin à des gens qui avaient l'air bien mieux informés que moi. Ce qui est clair, c'est que cette décision de la ville de Paris est le fruit d'une véritable réflexion et d'une discussion en particulier avec Monseigneur Lustiger, qui, je crois, à l'époque était aux affaires, ou en tout cas, l'a été juste ensuite. Et que c'est une discussion qui aboutit à l'idée suivante. Il vaut mieux leur laisser ce lieu aux intégristes plutôt que d'en faire des martyrs et de alors comme vous l'avez dit, réveiller les guerres de religion, etc. Enfin, les guerres des deux Frances, etc. Qu'autrement dit, dans une situation comme celle-là, il y a une sorte d'accord de type politique entre la ville de Paris, l'État, et l'Église catholique. Légitime. Mais vous savez, c'est pas le seul exemple de situation un peu bizarre. Je vous en donne un autre parce que ça m'a toujours amusé et je commence à y voir un peu clair parce que j'ai posé la question à des historiens. Non, c'est pas qu'elle n'a pas disparu, mais là, vous avez des intégristes qui sont une toute petite partie du monde chrétien, du monde catholique, mais une partie très active et à l'époque très bien plus virulente qu'elle ne l'est, je crois, pense aujourd'hui. Alors, est-ce que on rentrait comment dirais-je, est-ce qu'on dit ok, ils occupent cette église, on les laisse mais ça n'ira pas plus loin, on circonscrit en quelque sorte, ce qui permet aussi ce qui les oblige aussi à se calmer un petit peu, en tout cas dans leur comportement public, puisqu'on leur donne quelque chose où ils peuvent exercer leur culte, etc. Ou bien on adopte une autre politique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le seul phénomène un peu bizarre de notre société. Si vous allez à Paris rue Soufflot et que vous regardez le Panthéon, vous verrez qu'il y a une croix extraordinaire au-dessus. Elle doit faire 4-5 mètres de haut. Et je me suis toujours demandé comment on acceptait dans ce pays que les cendres de Voltaire soient déposées sous cette croix, pour le dire comme ça. Et puis en lisant des documents d'historiens en particulier, j'ai lu un jour un article dans les lieux de mémoire de Nora, eh bien, j'ai compris qu'il y avait eu des discussions, des négociations, parce que c'était une église qui avait été transformée, etc. Enfin, et puis on a trouvé une sorte d'arrangement, et ça ne dérange pratiquement plus personne. De temps en temps, il y a un libre penseur qui écrit un article dans la Pensée rationaliste, ou ce genre de publication, pour se plaindre de ça, j'ai vu une fois ou deux passer. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ce... Oui, et puis c'est un accord. Et puis il arrive un moment où, alors c'est pas la même question que vous posiez, mais c'est quand même des anomalies. Il arrive un moment où l'on dit, bon mais écoutez, oui, ce sont des symboles du christianisme. Il y en a énormément dans cette société, mais en réalité, ces symboles sont devenus des symboles culturels. C'est rentré dans l'histoire, dans le patrimoine national, et par conséquent, il n'y a pas forcément toujours de quoi s'inquiéter. Donc, c'est pas tout à fait la même affaire, mais j'ai voulu vous dire qu'il y avait d'autres problème de ce qu'on pourrait envisager. Alors, là où votre question beaucoup plus générale me tient à cœur, c'est quand vous dites que ce que je propose est avant tout social. C'est pas tout à fait ce que je dis. Le principe de laïcité, nous y sommes attachés. Nous voulons le faire vivre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe de laïcité inclut la séparation des églises et de l'État. Avec l'islam, là, il n'y a pas de problème. Et il inclut la liberté de conscience et de culte. Et par conséquent, il se prolonge par l'idée que chacun doit pouvoir exercer sa religion. Eh bien, je dis, si on veut faire vivre ce principe, eh bien, il faut donner les moyens à ceux qui sont concernés d'accéder à la liberté. Et que ces moyens... Pardon ? Ah non, je n'ai pas dit en finançant les cultes. J'ai dit en trouvant les moyens... J'ai dit en sachant que le problème n'est pas seulement religieux, qu'il est aussi historique, social, si vous voulez, et en sachant qu'à partir du moment où il y a des injustices flagrantes dans l'exercice du culte, il faut bien trouver des solutions. Ou bien on dit l'islam n'a pas le droit d'exister en France, ou bien on dit l'islam a le droit d'exister. S'il a le droit d'exister, il n'est pas normal que les gens aillent prier dans des garages, dans la rue, comme on l'a souligné parfois, etc. Ça n'est pas normal. Bon, autrement dit, c'est pas une question sociale ici. C'est si l'on veut donner à l'islam la possibilité d'exister normalement, je dis normalement, hein, c'est pas je, eh bien, il faut bien accepter de réfléchir aux modalités qui vont lui permettre d'exister normalement. Sinon, on le pousse dans ce qui me semble être dangereux. C'est ça ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est pas des réponses sociales à un problème de religion et de politique. C'est une réponse politique qui peut inclure des dimensions sociales parce qu'elle me semble faire partie du problème. C'est ça que j'essaie de dire.
Oui. Bonjour Monsieur Viviorca. Je suis content de vous retrouver. Henri Pénard-Ruiz, oui, donc. Merci. Je suis un peu troublé par ce que vous dites, car vous évoquez ce que vous appelez deux positions. Mais c'est un peu simple. Vous dites première position, on va chasser l'islam. Deuxième position, la laïcité existe, mais il faut aider l'islam à exister. Mais Monsieur Viviorca, il y a une troisième position. C'est la position républicaine et laïque, qui consiste à dire ceci. La laïcité, c'est certes, comme vous l'avez dit, la séparation de l'État et des Églises. C'est aussi, comme vous l'avez dit, la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais vous semblez oublier un troisième principe qui est fondamental et qui est consubstantiel à la définition de la laïcité. C'est la stricte égalité de traitement de tous les croyants, des athées et des agnostiques. Si vous oubliez la notion d'égalité, vous dessaisissez la laïcité de sa portée républicaine et sociale. Et de cette troisième idée, il découle quelque chose de très simple. Ce n'est pas à la République de subvenir aux besoins des religieux. En revanche, c'est à la République d'assurer les grands services publics. Si un citoyen de confession musulmane, je ne dirai jamais un musulman car je refuse ce vocabulaire communautariste. Si un citoyen de confession musulmane est hospitalisé pendant 10 jours dans un hôpital à raison de 700 euros la journée, ça coûte 7000 euros, et je ne suis pas généreux d'après des amis médecins, ça coûte 7000 euros. S'il est en Amérique, il paye les 7000 euros. S'il est en France, qu'il y a un grand service social, laïque, public, un service de santé public gratuit, il en fait l'économie. Et alors, il pourra, s'il le veut, avec ses co-religionnaires, se cotiser pour financer la construction d'un lieu de culte. Voilà la solution laïque. C'est la solution que défendait Jean Jaurès, qui consiste à dire que l'argent public ne peut pas, en aucun cas, financer le culte. D'ailleurs, cela est si vrai que l'article 2 de la loi 1905 dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Vous ne pouvez pas donner donc à l'article 1 « Respecte la liberté de culte » le sens de « Assure les conditions matérielles de la liberté de culte ». Parce que si vous lisez l'article 1 en disant que cela implique que la République doit assurer les conditions matérielles du culte, vous entrez en contradiction avec l'article 2 qui pose qu'aucun euro public ne doit aller aux subventions du culte. Et si vous vous souvenez que l'égalité républicaine, ce n'est pas seulement l'égalité des religions, parce que je vois que trop de personnes réduisent l'égalité républicaine à l'égalité des religions, alors qu'il faut l'élever au plus général, à ce que vous appelez l'universel abstrait sans doute. L'égalité, c'est l'égalité des croyants, des athées et des agnostiques. Est-ce qu'on va demander à la République de subventionner des temples maçonniques ? Est-ce qu'on va lui demander de subventionner des maisons de la libre pensée ? Pourtant, ces formes de spiritualité ne jouissent pas d'un patrimoine immobilier public. Donc il faut poser cette question. C'est pourquoi je pense qu'il y a une troisième position par rapport à celle que vous évoquez, à savoir dire que la République n'a en aucun cas à se soucier des besoins religieux des citoyens, qu'ils soient musulmans, athées, croyants ou autres, des besoins spirituels, disons, parce que le concept de spiritualité est plus vaste que le concept de religion. Mais la République doit effectivement mener une politique sociale. Je rejoins d'ailleurs M. Lecointre dans l'idée qu'il y a d'une part un modèle laïque et républicain qui n'est pas responsable de ce qui existe par ailleurs dans la société civile, à savoir une absence de justice sociale. Et qu'il ne faut pas tout mêler ou tout faire dépendre les unes des autres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de justice sociale, et je vous rejoins sur ce point-là, qu'il faut laisser dire que la laïcité n'est pas intégratrice. La laïcité est intégratrice politiquement et juridiquement, mais elle est encore plus intégratrice quand elle s'articule à une politique sociale. Mais il ne faut pas confondre les deux registres. Je soumets ces remarques à votre jugement.
Écoutez, merci beaucoup. Nous avions déjà eu l'occasion de parler de ces questions. Je voudrais vous dire la chose suivante. On peut bien sûr en appeler, et c'est ce que j'ai dit, au principe. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez ajouté en abstrait à ce qui concerne l'égalité. Mais nous ne parlons pas de la même chose. Moi, si je devais faire une comparaison, je vous dirais ceci. Vous me parlez de faire la course de 100 mètres à un certain nombre de sprinteurs, dont les uns sont entraînés, sont bien nourris, sont bien chaussés, etc., et dont les autres sont des va-nu-pieds, non entraînés, etc. Bon, bah écoutez, le résultat à l'arrivée sera évidemment prévisible. C'est un petit peu la même chose. Nous ne parlons pas des mêmes croyants, nous ne parlons pas des mêmes conditions d'exercice du culte. Nous avons affaire à une religion, je parle de l'islam, nous avons affaire à une religion qui au départ, pour des raisons historiques évidentes, n'a pas les mêmes conditions d'exercice du culte que d'autres, et n'a tellement pas les mêmes conditions d'exercice du culte que d'autres qu'elle s'en retrouve très largement pénalisée, elle et ses croyants, et que des gens se retrouvent dans des situations très inégales. Alors qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, oui, je veux bien admettre que le principe laïque et républicain abstrait est magnifique, mais si on se contente de brandir ce principe républicain et abstrait et magnifique, alors ce principe abstrait, tel que vous l'avez rappelé, et qui est évidemment très juste en théorie, ne permet pas de régler les problèmes concrets. C'est ça la question pour moi. Et donc, alors, par exemple, il n'est pas question de donner un centime ou un euro pour financer les lieux de culte, les imams, etc. Je laisse à part d'ailleurs le côté Alsace et Moselle. Il n'en est pas question. Très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est tel ou tel pays du Moyen-Orient qui va financer.
Et alors ?
Bah écoutez, et alors ? On sait très bien ce que ça donne. Pardon ?
Ça donne.
Bah écoutez, ça a donné le London Easton en Angleterre, et ça, c'est-à-dire, on laisse circuler des formations, des idées, des modes d'approche du fait religieux. On les confie à des agents desquels on ne sait rien.
Excusez-moi, c'est pas vrai qu'on les laisse, puisque l'imam Bouziane, lorsqu'il a appelé à battre une femme adultère en mosquée, a été traduit en justice.
En République, ce qui permet de contrôler, c'est pas le mécénat, façon ancien régime, c'est la loi. Toute incitation à la violence contre les femmes, par exemple, comme ont fait certains imams, est un délit. Attendez, donc c'est faux de dire que soit quelqu'un qui vient d'Arabie Saoudite laisse la République impuissante. C'est une contre-vérité. On a la loi. En République, c'est par la loi qu'on règle les choses.
Alors je vais
c'est
vous
pas
répondre.
Par du mécénat en achetant les gens et en disant on vous a payé des belles mosquées, maintenant vous restez conforme à une certaine règle.
Je n'ai jamais plaidé pour que l'État français paye des belles mosquées. J'ai dit qu'à l'intérieur des lois, de la loi de 1905, il est possible de trouver des formules. J'en ai évoqué une ou deux, les spécialistes en connaissent beaucoup d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous illustrez parfaitement mon propos, car comment est-ce que l'on va éviter les dérapages si on se contente de l'application abstraite de la laïcité? On les évitera en dépensant de l'argent pour la répression. Maintenant, je voudrais terminer, parce que c'est une longue discussion, mais on est au cœur du débat, hein, je le dis. Je le dis aussi très fortement. Je voudrais terminer par une remarque. Je n'ai pas dit qu'il y avait une façon de régler les problèmes claire, nette et précise. J'ai voulu évoquer des tensions. J'ai bien dit qu'il y avait des modèles qui s'opposaient. J'ai fait connaître mes sympathies. Je n'ai pas dit que je vous apportais la solution clé en main pour régler ces problèmes. Mais je pense qu'il faut savoir dans quel état d'esprit on est. Ou bien on est, je veux bien admettre qu'il y a trois et non pas deux points de vue. Vous avez raison, c'est toujours plus intelligent de raisonner avec trois dimensions qu'avec deux. Je veux bien l'admettre. Mais ou bien l'on dit, je vais prendre les trois points de vue, ou bien l'on dit, c'est votre point de vue. Je mets en avant des principes intangibles et il faudra bien que les faits se plient à mes principes intangibles. Et s'ils ne s'y plient pas, il faudra bien que la loi les fasse plier. Et puis je voterai loi sur loi, un jour sur la burqa, un jour sur les signes ostensibles. Vous mettez en avant des principes abstrait, consiste à dire il y a un fait religieux, ça s'appelle l'islam en France, et pour que ce fait religieux puisse bénéficier pleinement de la liberté de conscience et de la liberté de culte, eh bien il faut envisager un certain nombre de mesures, faisant en sorte de les inventer, tout en respectant bien entendu les principes généraux. Certainement vous êtes celui qui les illustrait le mieux en France, mais c'est une position qui présente, je termine là-dessus, qui présente un avantage, ou une force plutôt, c'est qu'elle traverse tous les courants politiques.
Je voudrais simplement poser le problème des sectes, du développement des sectes en pleine crise économique. Comment vous situez cette sectes? Jusqu'où peut-on aller dans l'aide que l'on, les subventions que l'on peut donner éventuellement aux sectes? Et voilà, mais aucune, oui, mais moi ma question sous-jacente, c'était en effet, n'en donner aucune, c'était un avantage.
Écoutez, la réponse, je ne suis pas du tout capable d'apporter une réponse au phénomène des sectes. Oui. Mais je suis capable, mais je peux vous dire qu'il ne me semble pas acceptable que la moindre reconnaissance soit apportée à des sectes.
Oui,
ça ne me semble pas acceptable.
De faire la limite entre une religion intégriste, fondamentaliste et une secte. Voilà, c'était un petit peu la question que je posais. À quel moment jusqu'à la scientologie, etc.
Le grand sociologue des religions, Max Weber, a écrit quelque part une phrase disant quelque chose comme « Au départ, le christianisme est une secte ».
Voilà.
Donc on est confronté à un problème compliqué. Je ne vais pas trancher en un quart de seconde comme ça. C'est un vrai problème, madame. Un vrai problème et je n'ai pas la réponse. Je sais simplement que tout ce qui encourage les activités sectaires doit être combattu. Voilà ce que je pense. Pour le reste, malheureusement, je n'ai pas la réponse et je dois vous dire que personne n'a vraiment la réponse. De temps en temps,
les religions s'organisent actuellement pour justement mettre en avant la croyance et la question peut se poser à un certain moment dans quelle mesure les phénomènes dogmatiques en période de crise économique ne vont pas être accentués au moment où l'argent public est nécessaire pour construire des logements sociaux, eh bien on pose le problème des baux amphithéotiques. Voilà, c'est aussi radical que ça, ma question.
Écoutez, pour vous répondre, je dirais juste ceci. Nous discutons aujourd'hui de la laïcité et dans ce qui concerne ce moment précis, faut-il la refonder ou pas? Je vous ai dit, il faut plutôt mieux ou autrement l'appliquer. Mais je n'ai pas dit, et je ne crois pas qu'on puisse dire, qu'il faut l'appliquer également au phénomène sectaire. J'ai évoqué les nouvelles églises évangéliques pentecôtistes. on peut commencer à se poser des questions, je vous le dis. Mais moi, quand j'entends dire que des planchers, qu'un plancher s'effondre parce que vous avez je ne sais combien de fidèles dans un bâtiment, je me dis aussi, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont ces gens-là pourraient prier dans des conditions normales.